Rôtir, braiser, pocher, cuire à la vapeur, gratiner, bouillir, frire, saisir. Le dictionnaire des cuissons semble infini. Alors ce matin, on va en passer quelques-unes à la casserole. Pour nous éclairer, on accueille un ancien chef, ingénieur et professeur des sciences de l'aliment à AgroParisTech, s'il vous plaît. Il sort un livre consacré aux cuissons, Le grand précis des cuissons au poil. C'est Stéphane Lagorce, notre invité. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous, c'est un très plaisir de vous voir.
Et bravo pour ce grand précis des cuissons au poil, de la chipolata au caramel mou, mieux connaître et mieux aimer. C'est vrai que les cuissons font partie de notre quotidien. Vous étiez l'auteur du traité de miamologie, on en avait parlé déjà ici.
Oui. Hein,
vous aimez bien expliquer la cuisine par le pourquoi. Et les cuissons, pour vous, c'est une galaxie infinie, hein.
Infini et d'une certaine manière quasi inconnu, puisque finalement on pratique les cuissons souvent de manière un petit peu pas répétitive, mais on nous dit de faire d'une certaine manière, on applique la cuisson. Souvent d'ailleurs, quand vous regardez dans des livres de cuisine, en fait vous avez un énoncé de la recette qui est assez lent, et la cuisson c'est mettez au four, faites cuire en bouillant, ou des choses assez courtes finalement. Or, cette petite ligne très très courte, elle est beaucoup plus complexe et tout à fait passionnante.
Le four peut être vif au départ et ensuite on peut le baisser. L'ébullition peut être à frémissement ou grande ou petite.
Ce qui change absolument tout. Mm-hmm. Et en fait, les cuissons sont truffées de petites subtilités comme ça. L'ébullition, par exemple, en fait, la différence entre une ébullition forte et modérée, disons, c'est qu'en fait, la chaleur passe plus vite de l'eau vers l'ingrédient, même si on est toujours à 100 degrés. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui paraissent subtiles et passionnantes.
On va s'arrêter sur l'ébullition, tiens, justement. Hein. C'est vrai que, comme vous le dites, les petits frémissements et les gros frémissements, les gros bouillons, c'est pas la même chose. Alors, quelle puissance pour quel ingrédient et pour quelle cuisson, par exemple ?
Alors, par exemple...
Les pâtes, allez.
Alors, les pâtes, où on veut une cuisson...
Je veux pas des coquillettes ratatinées et mollassonnes.
Alors, dans ce cas-là, il faut faire une cuisson qui sera plutôt lente, c'est-à-dire qui donne à la fois le temps à la pâte de cuire, c'est-à-dire que la chaleur transforme l'amidon qui est dedans, et l'eau de pénétrer un petit peu dans la pâte. Parce qu'en fait, c'est une cuisson-hydratation, comme on dit. Les deux se passent à la fois.
Mais lente, ça veut dire quoi ? Petite ébullition ou gros
bouillon
quand
même ? Oui, en
fait,
on n'a pas besoin forcément d'avoir une ébullition ultra forte pour des coquillettes qui ont une forme un petit peu spécifique. Hein,
Ah oui, je parle des... Voilà, d'accord. Voilà. Oui, voilà, vous parlez des coquillettes, parce que si je fais des penne, par exemple...
Ah oui, c'est dur avec les formes des pâtes, al dente ou pas, etc.
Le problème des pâtes, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a tellement de formes différentes que ça appelle...
Oui, il y en a certaines qui ont besoin de gros bouillons. Hein,
voilà. Là, par exemple, les spaghettis, c'est un peu plus conforme parce que comme ce sont des petits tubes très très longs qui développent une surface très grande, en fait, on a besoin de les cuire plus vite. Enfin bon, je pense.
C'est passionnant. Et vous expliquez tout ça dans le livre qu'Olivier lisait religieusement encore à 11h.
C'est Olivier qui l'a.
Non mais j'adore ce livre. Tout le monde devrait l'avoir et surtout les chefs devraient l'avoir parce que vous savez, beaucoup de chefs font des recettes parce que on leur a montré, on leur a expliqué, mais ils ne savent pas pourquoi on fait comme ça, justement. Et vous décortiquez de manière scientifique et vous nous expliquez de manière scientifique pourquoi à un moment on doit mettre un couvert sur une casserole ou pourquoi il ne faut pas le mettre, pourquoi on doit démarrer à four froid ou pourquoi on doit démarrer à four chaud. Et quand on comprend, ça donne tout de suite une autre perspective.
Alors on rentre, dans la saison des langoustines, par exemple. Ça, c'est un produit délicat, on en parle régulièrement
hyper
ici.
Dur à cuire.
Hyper dur à cuire, mais saisi dans de l'huile d'olive, on sait que c'est délicieux, hein, à peine aller 2 minutes. Hein, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est des produits qui cuisent extrêmement rapidement et qui ont besoin d'avoir un flux de chaleur très brutal, très fort et très court. Donc, si je reviens à l'ébullition,
on peut les faire au courbouillon.
Là, on a besoin d'une ébullition forte qui va transférer la chaleur immédiatement de l'eau à la langoustine. Et pour avoir quoi ? Pour avoir la texture si délicate et croquante des langoustines bien cuites. Quand vous avez les langoustines qui sont un petit peu pâteuses, vous savez comment ça fait un petit peu
molle. Oui, cotonneuses, oui.
Trop de cuisson, c'est ça. Ébullition faible ou trop de temps à la poêle ou trop de quantité dans la poêle qui change le régime de cuisson.
Et combien de temps pour des langoustines alors, par exemple ?
Dans un court bouillon bouillant.
Bien assaisonné.
Mais on parle presque en dizaines de secondes. Hein, alors, tout dépend de la quantité que vous allez mettre.
Mais, et de la taille des langoustines.
Oui, de la taille des langoustines. Mais on est entre 45 et une grosse minute pour des bêtes un peu plus conséquentes.
C'est ça, il faut peut-être revenir sur des légendes de cuisson, en fait, qu'on faisait toujours. On avait tendance de faire tous les légumes à l'eau. Par exemple, je ne sais pas moi, mais les petits pois qui sont en train d'arriver, je ne les fais pas à l'eau. Moi, je les fais à la poêle juste pour les réchauffer. Je les mange quasiment presque cru, en fait, cru, cuit, réchauffé. Et il y a beaucoup de plus en plus de gens qui font ça. C'est une erreur ou je me trompe?
Ah ben, vous n'avez pas besoin de mon livre, là, parce
non,
que vous avez tout compris. Vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, quand on cuit les petits pois à l'eau, en fait, il se passe un phénomène qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a beaucoup de saveurs qui passent dans l'eau, qui passe dans la vapeur et qui se retrouve dans votre cuisine. D'ailleurs, ça sent les petits pois quand vous le cuisez,
comme
mais le goût, il est plus dans les petits pois. Donc, du coup, de cuire les petits pois à la poêle, c'est tout à fait légitime et c'est même très bien, d'autant plus que dans le petit pois, il y a bien assez d'eau pour le faire cuire.
Il y a les poissons aussi. Vous accordez un chapitre aux poissons dans votre livre. Alors ça, c'est passionnant parce que vous dites que les poissons vivent dans l'eau, sont pleins d'eau, mais en même temps, ils font des transferts d'eau. Racontez-nous ça, c'est passionnant.
C'est une des raisons pour lesquelles les poissons cuisent si vite. Enfin, les poissons maigres, surtout, qui sont si difficiles à cuire, c'est que pendant leur vie aquatique, en fait, si vous voulez, en fait, l'eau dans laquelle ils nagent, en fait, ils échangent leur propre eau avec l'eau qui est à l'extérieur. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais et donc du fait, la structure de leur filet, si vous voulez, est extrêmement poreuse, pour le dire vite, et donc extrêmement réceptive, réactive à la cuisson.
Oui, comme dit Jean-François Piège, ça cuit de peur, hein, le
ça
poisson,
cuit de peur,
et c'est vrai.
Oui, cette expression, j'aime bien.
Alors, bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire. On continue, on va parler de la cuisson au micro-ondes, on va parler du poulet rôti du dimanche, cette fameuse cuisson par convection, et puis on va aussi parler des friture, on revient au chaud, juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Les secrets des cuissons sont infinis. Pour les découvrir, nous sommes avec Stéphane Lagorce, ancien chef, ingénieur, professeur des sciences de l'aliment et auteur du grand précis des cuissons au poil chez Homo Habilis. En commande sur le site d'Homo Habilis et en librairie le 16 avril, Stéphane, votre livre.
Exactement, oui.
Il est passionnant. Alors, on va sortir de l'eau, on était dans les ébullitions. Maintenant, on va se réchauffer avec la température du four et de la flamme. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur du verbe naître, disait Bria Savarin. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est une cuisson qui est fort
la flamme,
fort complexe, qui à la fois, quand on la pratique, semble simple. On ouvre une porte, on met, on ferme et on attend. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît tout simple. Mais en fait, de bien percevoir ce qui est en jeu là-dedans, ça demande beaucoup de sens d'observation. Et je pense que Bria Savarin avait vraiment ça en lui à l'époque.
Et demain, c'est dimanche. De nombreux auditeurs vont faire ce beau poulet rôti qui réunit la famille et les amis.
Et c'est toujours un débat de cuisson.
Ah, toujours. Oui. Alors, départ à froid, le four, départ à chaud, tiens déjà.
Alors, sur ce cas-là... Tout dépend en fait du résultat final. Alors, si on veut quelque chose,
on veut une peau croustillante et on veut une viande fondante.
Ah bah voilà. Donc du coup, on veut ce qui est le plus compliqué. Dans ce cas-là, on sera quand même plutôt à démarrer à chaud. Et ce qu'on va faire, mais ce qu'on fera dans beaucoup de cuissons au four, c'est qu'on va commencer relativement chaud pour obtenir une coloration satisfaisante.
Et on met du sel pour que ça...
Oui, je ne l'ai pas dit, on assaisonne avant, qui déshydrate très légèrement la périphérie, qui facilite la coloration. Et ensuite, on va plutôt à baisser la température, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des produits qu'on cuit au four, au fur et à mesure de leur cuisson, ils deviennent isolants. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait surprenant.
Donc plus la température ne rentre plus.
Plus ils cuisent, moins ils cuisent. Et là, ce qui est complètement contre-intuitif, ce qu'il faut faire, c'est baisser la température pour que la chaleur continue à pénétrer le poulet, le gâteau, la
Quelle température? On commence à combien? À 200, 220?
Là-dessus, je dirais que 220, c'est déjà relativement haut. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend. Le problème, c'est que c'est souvent une réponse alarmante. Ça dépend. Ça dépend de la convection, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle votre petit ventilateur au bout du four, il tourne.
C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens ne sont jamais d'accord sur les températures et sur les temps de cuisson au four, parce qu'on n'a pas tous le même four.
Parce que là, Laurent, vous touchez du doigt un aspect de la cuisson, qui est l'aspect que j'appelle moi qualitatif. Le quantitatif, c'est quelle température, combien de temps. Mais le qualitatif, c'est beaucoup d'aération, beaucoup d'humidité dans le four. Et ça, ça dépend de tous les fours qu'on a, que les gens ont. Et donc, du coup, moi, dans mon livre, j'essaie de donner un peu les grandes idées, les grandes notions, mais finalement, tout s'adapte.
Et alors, si on rajoute une papillote?
En fait, si vous mettez une papillote de poisson, vous enfermez l'eau contenue dans le poisson qui va se vaporiser.
D'accord.
Donc, vous créez une légère surpression qui vous augmente la rapidité de cuisson. En fait.
D'accord.
Donc, ça va bien pour les cuissons qui...
C'est de la chimie.
Moi, j'ai besoin qu'on parle de la friture, quand même.
Oui, le Belge qui revient avec ses trucs. On va en parler dans un instant, Olivier, de la friture. Mais juste avant, je voudrais qu'on poursuive ce que vous disiez. C'est très intéressant sur cette chaleur qui saisit comme ça, qui fait une coque et ensuite elle isole, elle protège l'intérieur. C'est le même principe que la brioche que vous venez d'apporter.
Voilà. Je vous ai mis une petite brioche. Donc j'ai appliqué à moi-même le principe que je vous annonce. C'est-à-dire que j'ai commencé relativement chaud, 170, et j'ai terminé vers 140. Donc, en fait, un gâteau, quand il cuit dans un four, il gonfle. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande. Et quand il gonfle, les petites bulles d'air, en fait, deviennent isolantes. Elles empêchent la chaleur de rentrer. Donc, évidemment, on veut mettre plus chaud. Donc, ça brûle encore plus, ça isole encore plus. Et il faut faire le contraire. On baisse la chaleur du four et ça permet d'avoir, enfin, j'espère que vous le trouverez, ça donne des brioches qui sont extrêmement moelleuses.
Oui, humides encore.
Humides. Encore cuites, mais très fondantes et chose qu'on n'a pas si on fait une cuisson linéaire, c'est-à-dire même température tout le long.
Pareil pour les cakes, il faut faire la même chose.
Tout ça fonctionne de la même façon.
Pour pas que ce soit sec à l'intérieur.
Voilà, il faut vraiment l'essayer parce que ça fait vraiment une différence, c'est tout simple.
On vous mettra la recette de cette belle brioche de Stéphane Lagorce sur notre site europe1.fr à la page des bons vivants. Alors, venons-en à la friture.
Trépigne.
Trépigne. Alors, la friture, on entend souvent, mais non, la friture, c'est pas gras. Alors, c'est gras ou c'est pas gras, la friture?
On n'ira pas peut-être jusque-là, mais...
Alors, oui, on n'ira peut-être pas complètement jusque-là, surtout devant un expert, Olivier, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les produits de la friture deviennent gras, pas pendant qu'ils cuisent, mais au moment
quand
où on les égoutte. Quand on les sort, parce qu'en fait, pendant qu'ils cuisent, ils sont gonflés, la vapeur sort de la frite, de ce qu'on voudra. Et donc, ça crée une surpression qui empêche l'huile de rentrer. Et c'est quand on les égoutte que la chaleur baisse forcément, que le produit se rétracte et aspire toute l'huile qui est autour. Donc, du coup, le secret, c'est quand on égoutte immédiatement papier absorbant. Mais c'est pas dans 5 secondes ou dans...
Tout de suite.
C'est immédiatement. Et là, vous avez des fish and chips, des frites qui sont... Bon, voilà...
Et d'ailleurs, qui seront plus croustillants parce qu'on va garder justement cette pellicule extérieure qui ne sera pas trop imbibée de gras et qui ne va pas ramollir.
Exactement.
Il n'y a qu'à voir le gras qui reste sur le papier absorbant.
Ah oui, ça fait peur.
On s'en rend compte, mais c'est important ce geste. Égoutter papier absorbant pour les frites, pour les beignets de crevettes, vous en parlez aussi.
Oui, voilà, tous les produits frits, les beignets, les merveilles, enfin toutes ces petites choses délicieuses. Alors j'ajoute un mot, c'est que la friture, c'est la friture qui donne le plus de goût. L'interaction entre le produit dans l'huile génère tellement de saveurs et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tous
C'est pour ça qu'on aime bien. Et une question tient à propos du micro-ondes. De nombreux auditeurs ont un micro-ondes. Déjà, vous êtes un adepte de la cuisson au micro-ondes ou pas plus que ça ?
J'ai pas de prévention, c'est une cuisson très intéressante. Le problème du micro-ondes, c'est que le plus souvent, on met dans le four, on appuie sur le bouton et on ne règle pas.
Ouais,
alors donc du coup, on se prend 900 watts là-dedans et ça...
C'est ça, on met toujours au plus fort.
Voilà, il faut être plus subtil, il faut régler, il faut chercher.
On a raconté souvent, moi j'ai eu des discussions avec des médecins qui expliquent que le gras chauffé au micro-ondes ne serait pas bon pour la santé, que les molécules du gras se transforment et auraient des incidences sur le système nerveux. Vous avez entendu parler de ça ou pas ?
Je pense que cette remarque, elle est fondée lorsque effectivement les gens mettent un produit au micro-ondes riche en gras, qu'ils le mettent à 900 watts pendant je ne sais pas quelle minute, qui provoque des échauffements, ce qu'on appelle des échauffements locaux, dans un ordre très très précis du produit qui surchauffe,
localisé,
qui surchauffe, qui surcuit, qui polymérise comme on dit dans le jargon et qui crée des composés qu'on ne veut pas avoir. Mais ça c'est parce qu'on est on a un cas d'utilisation presque extrême du four micro-ondes qui n'a pas lieu d'être.
Enfin, finalement on dépasse pas quoi 600 watts plutôt quitte à mettre un tout petit peu plus fort.
Oui, moi je trouve que la plage des 300, 400 voire 500 watts elle est largement suffisante pour faire les choses. Il n'y a pas besoin de puissance comme ça. C'est tout à fait.
Vous entendez, c'est passionnant grand précis des cuissons au poil. Merci Stéphane
Lagorce. Ça va être mon livre de chevet.
Oui, mais j'ai vu, vous l'avez déjà bien repéré.
Alors.
De la chipolata au caramel mou, le grand précis des cuissons au poil aux éditions Homo Habilis. Merci Stéphane Lagorce d'être venu à la table des bons vivants.
Merci à vous tous.